Sur Radio G, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure de cinéma partagé tous ensemble. Alors aujourd'hui, il y a vous, chers auditeurs, il y a vous, chères auditrices, il y a moi, Ninon, et il y a mes complices du jour qui sont Kevin et Camille.
Et bonjour.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça très va bien, plutôt,
très bien. Ça va bien. Eh ben, écoutez, super. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent régulièrement, pardon, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. On vous a beaucoup teasé hein, sur nos réseaux, donc il y a pas trop de suspense. C'est un peu une spéciale Festival de Cannes, si on peut dire. On va vous parler de trois films présentés à Cannes cette année et actuellement en salle. Je parle de Histoire parallèle, un drame à la française, L'abandon qui revient sur l'histoire de Samuel Paty, et enfin pour la touche étrangère, Autofiction, le dernier film de Pedro Almodovar. Et on finira cette émission, bien sûr, sur un petit point palmarès, du Festival de Cannes. Comme vous le voyez, le programme est assez dense aujourd'hui, alors je vous propose de commencer tout de suite. Restez bien avec nous sur le 101.5 FM de Radio G, parce que Clap & Chat épisode 18, c'est parti. Moteur.
Action. Clap & Chat sur Radio G.
101.5 FM.
Forcément, si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Camille et moi avons eu des accréditations pour aller à Cannes cette année au Festival de Cannes.
Ouais.
Mais avant de, revenir sur cette histoire, on va mettre un peu de contexte quand même. Mardi 12 mai, s'est ouvert le Festival de Cannes, le festival le plus prestigieux du cinéma en France, carrément, et qui rayonne à l'international, le fameux Festival de Cannes pour sa 79e édition. Il se déroulait sur 2 semaines comme tous les ans, donc il s'est fini ce samedi, là, il y a quelques jours, le samedi 23. Et dans l'épisode précédent de Clap & Chat, on avait parlé de La Vénus électrique, qui était son film d'ouverture. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le podcast sur les plateformes d'écoute. Cette semaine, on revient sur ce qui s'est passé à l'intérieur du festival. Et avant ça, Camille, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce festival, de cette expérience que toi et moi, on a vécue avec ces accréditations?
Eh ben, c'était super, parce qu'on est parti d'Angers le jeudi 14 mai, donc le jour de l'Ascension. Et on est tombé en panne sur la route à Clermont-Ferrand, donc on est rentré et on n'a pas pu aller au Festival de Cannes.
Voilà, toute notre expérience de Cannes s'arrête à Clermont-Ferrand, c'est ça.
Ce sera pour l'année prochaine, pour les 80 ans.
Donc on a été rapatriés à Angers et nous n'avons pas pu assister à ce Festival de Cannes. Ne vous inquiétez pas, on a quand même suivi le festival de près. Et comme Camille vous l'a dit, pas de festival pour nous cette année, mais on va retenter l'année prochaine et on essaiera d'y aller. Oui. Et on essaiera d'y aller encore plus en force. Ce serait chouette que plus de monde de l'équipe soit là.
Peut-être pas en voiture.
on va voir. Si vous avez des astuces pour nous, n'hésitez pas. Si vous connaissez des gens sur Cannes qui peuvent nous accueillir aussi, n'hésitez pas. Ce sera tous les bons plans sont bons à prendre.
Avec d'autres voitures que celle de Camille.
Avec d'autres voitures. Mais on s'en sortira, c'est pas grave. Mais bon, ce n'est pas un contretemps qui va arrêter Clap & Chat. Hein. On vous a dit qu'on vous parlerait des films à Cannes. On va vous parler de films présentés à Cannes. Et pour commencer, un film en compétition qui nous intriguait avec Camille et qu'on comptait aller voir du coup sur la croisette.
Ouais, j'avais des billets.
Ouais, on avait des billets. Ouais.
Bon, c'est pas grave.
La billetterie de Cannes est assez
au pâté Angers.
C'est ça. La billetterie de Cannes est assez complexe et on a réussi à avoir des billets toutes les deux pour ce film, donc on est d'autant plus déçus. Il s'agit du film Histoire parallèle, nouveau film de Asghar Farhadi, sorti le 14 mai, un film qui a été présenté en compétition officielle à Cannes cette année. Et Camille, je te laisse nous présenter un petit peu le film, s'il te plaît.
Donc le film raconte l'histoire de Sylvie, une écrivaine en manque d'inspiration, qui passe son temps à observer ses voisins depuis sa fenêtre. Peu à peu, elle imagine leur vie et s'en sert pour écrire son nouveau roman. Mais lorsqu'elle engage un jeune homme nommé Adam pour l'aider dans son quotidien, enfin c'est sa
nièce
qui l'engage, la frontière entre ce qu'elle invente et la réalité devient de plus en plus floue. Les personnages se retrouvent entraîné dans une sorte de jeu entre fiction et réalité où chacun semble cacher quelque chose. Et en fait, j'imagine que c'est, enfin, je l'interprète comme ça, histoire parallèle, parce qu'on vit avec Sylvie et ses personnages, et on alterne entre la réalité et la fiction un peu, tout est mélangé et c'est aussi un peu compliqué à suivre de temps en temps. Enfin,
surtout
au début. Surtout, on comprend pas trop comment ça se passe. Moi, ça m'intrigue et c'est ça que j'ai bien aimé justement. Donc, pour les points positifs, je dirais que c'est une histoire intrigante. Il y a une réflexion sur l'imagination, le pouvoir de l'imagination, et les points de vue sont intéressants parce qu'on se demande tout le temps ce qui est réel, ce qui ne l'est pas.
Ouais.
Et aussi, je voulais parler de l'interprétation des acteurs. Isabelle Huppert joue très bien son rôle, je trouve. Je l'avais vue dans La femme la plus riche du monde récemment, où j'avais pas vraiment accroché. Je sais pas si c'est le personnage d'Isabelle Huppert ou si c'était son interprétation, mais j'avais pas trop aimé. Et là, j'ai beaucoup aimé. Je la trouve très juste. Virginie Efira, c'est une actrice super forte.
Moi j'adore.
Elle arrive à partager beaucoup d'émotions avec son expression, avec ses yeux, avec elle
n'a
pas besoin de parler.
Je trouve.
Oui, elle n'a pas besoin de parler, elle n'a pas besoin de. Enfin, elle partage des choses rien qu'en la regardant, donc c'est fou. Et j'ai trouvé le personnage de Pierre Ninet, qui est plutôt un personnage secondaire, assez crédible aussi, très bonne interprétation. Pas grand chose à dire.
Ouais. Je partage et je voudrais même rajouter que le film est un peu en deux parties où d'abord on suit vraiment l'histoire imaginaire et ensuite on suit l'histoire réelle de ces personnages. Et dans ce récit imaginé par l'autrice, on voit un Pierre Ninet qui est très en retenue, qui est très délicat et tout. Et on a peu l'habitude de le voir comme ça.
Oui, c'est vrai.
Et j'ai beaucoup aimé moi cette interprétation de Pierre Ninet d'ailleurs.
Oui.
Kevin, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté?
Ouais,
ça change, c'est ça.
Cast plus
cast
que 5
malade.
Étoiles là,
cast,
c'est
cast de fou.
Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Ninet, Vincent Cassel, l'apparition de Catherine Deneuve, India Air, Adam Bessa. Bon, là on est quand même sur
un cast qui a tout pour cartonner à Cannes.
Très clairement, c'est un film qui est fait pour être en compétition à Cannes.
Exactement.
On va pas se mentir.
Tout à fait.
Le Réal a pris la grille d'évaluation. Il a dit, il faut que je coche toutes les cases. On y est, sans aucun souci. Moi, je me suis cependant un peu ennuyé.
C'est extrêmement
Moi, j'ai parlé que du positif. J'ai pas encore dit mes points négatifs sur le sujet.
Parce que c'est vraiment très, très long, quoi. Alors, effectivement, il y a des choses intéressantes sur le rapport au réel, sur la force, le pouvoir de l'imaginaire, etc. Ça, c'est très intéressant. Et on aura l'occasion d'en reparler après pour le troisième film dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs, mais
qui fait très très référence à celui-ci effectivement, et très proche l'un de l'autre.
C'est deux histoires qui se ressemblent un petit peu, mais au-delà effectivement, oui. Alors le cast joue bien, c'est super, oui. Très intéressant de voir Virginie Efira en brune,
oui,
à bouclette, enfin pas à bouclette, mais
ça lui va super bien.
Oui, c'est très intéressant d'avoir ça. Et tu vois, j'en parlais, je sais plus quand, mais Virginie Efira, j'ai du mal à la mettre dans des rôles on va dire populaire de classe populaire,
ah
etc.
Ouais
habituellement, je trouve qu'elle a pas du tout la prestance, le charisme, etc. Mmh. Enfin, elle rayonne tellement que j'ai du mal à y croire. Dans les Braises, par exemple, ça m'avait pas, enfin, j'avais pas du tout accroché à son personnage.
Et autant dans, là, t'avais vu Rien à perdre, parce que Rien à perdre, où elle jouait une mère de famille où on lui enlève ses enfants tellement elle est dans une situation compliquée et tout ça.
Oui,
moi,
mais
je l'avais trouvée hyper cohérente.
Oui, mais elle est pas vraiment. Alors, elle est dans une situation compliquée, mais qui n'est pas pour moi un sujet. Le fait que ça soit de la classe populaire, alors que dans dans Les Braises, c'est le cœur du film.
Oui, ok, je comprends.
Mais là, de la voir, en fait, je pense que peut-être que si elle avait été dans Les Braises, si elle avait été brune, châtain,
c'est physique en fait.
Oui, en fait, je sais pas.
Elle a été dans Les Braises. Son blond a été terni.
Il a été un peu terni.
On parle totalement d'un autre film.
On parle de Virginie Efira qui est dans Histoire parallèle.
Oui, Histoire parallèle.
Actuellement au cinéma.
Vas-y, je te laisse continuer.
Mais donc là, ouais, ça m'a pas mal plu de voir Virginie Efira comme ça. Ça lui va bien. Ça change bien complètement le personnage. Alors Catherine Deneuve, très.
C'était pas très long.
La scène très courte,
mais très Catherine Deneuve.
Mais très Catherine Deneuve, effectivement. Mais voilà. Donc j'ai pas forcément beaucoup apprécié parce que c'était très long, mais je reconnais les qualités du film sans aucun souci.
Je partage totalement. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement long. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Il y a des idées scénaristiques qui sont très intéressantes, qui sont très très bien trouvé. La photographie est magnifique, le casting est magnifique, on va pas revenir dessus, la réalisation est top. Moi, hormis la longueur, ce que j'ai envie le point négatif que je pourrais trouver au film, c'est que c'est une copie qui est presque un peu trop parfaite. Comme tu disais, c'est très très Festival de Cannes, c'est fait pour un festival, c'est fait pour une compétition et ça se voit. Effectivement, ils ont pris la grille en disant on a besoin de ça, même la photographie que je trouve magnifique, elle est cannoise quoi. Mmh. Donc ça marche. Et ouais, donc je trouve que
l'histoire elle avance pas beaucoup en fait pendant le film.
Et puis on sait pas où ils nous emmènent en plus de ça.
Oui, c'est ça.
On sait pas où ils nous emmènent.
Et
copie un peu trop parfaite.
Et le personnage de Vincent Cassel
globalement, moi j'ai trouvé qu'il y avait aucun personnage qui était très hormis peut-être le personnage de Virginie Efira, aucun personnage qui était
attachant.
Ils sont tous un peu toxiques en fait.
Ouais.
Oui.
Mais ça m'a pas empêché de m'attacher. Tu vois, le personnage de Pierre Niney, par exemple, je l'ai trouvé plutôt attachant, malgré le fait qu'il ait des scènes quand même dégueulasses, quoi.
Oui.
Donc voilà, histoire parallèle. Film très, très scolaire, on va dire, pour un festival comme Cannes. Histoire parallèle, je vous spoil tout de suite, n'est pas dans le palmarès de ce festival de Cannes cette année. Mais il y a plein de films, hein, donc tout ne peut pas y être. On vous invite quand même à aller le voir et vous faire votre propre avis dessus parce que Histoire parallèle, c'est toujours au cinéma actuellement. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Nous allons parler maintenant d'un autre film français qui a été présenté à Cannes cette année. Mais cette fois-ci, c'est un film hors compétition. À Cannes, il y a que la compétition long métrage, compétition court métrage. Il y a des compétitions parallèles, on y reviendra. Et il y a les films qui sont hors compétition.
Parallèle comme Histoire parallèle.
Exactement, tout à fait. Elle suit.
C'est fou.
Et donc, L'abandon de Vincent Garenc, j'espère que je prononce bien, je suis désolée, lui est présenté hors compétition. Alors L'abandon, le speech est très rapide, le film est sorti le 13 mai et c'est un film qui revient sur les derniers jours de vie de Samuel Paty qui est joué ici par Antoine Reynatz, qui est professeur d'histoire-géographie au collège et qui a été assassiné pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo en 2020. Donc c'est tiré d'une histoire vraie et le film veut être le plus proche, il l'annonce bien au début, le plus proche de ce qui s'est réellement passé.
Exactement.
Qui veut commencer à nous parler de son avis sur ce film ? Vous battez pas, hein ?
Bah, et ben je peux commencer.
Vas-y.
J'ai beaucoup aimé le film parce qu'effectivement, même si c'est un film, on va dire, de fiction, même si c'est très fidèlement inspiré effectivement des événements, ça aurait pu tomber dans le documentaire. Tellement c'est fidèle aux événements, etc. Et pourtant, on reste vraiment dans un film de fiction, qui est effectivement la retranscription d'un fait réel, mais on sent que c'est quand même un film de fiction et pas un documentaire sur l'événement.
Ouais, j'ai
vraiment beaucoup aimé parce que de rester aussi fidèle tout en ayant cette posture de fiction, j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien. J'ai trouvé le personnage d'Antoine Reynatz. Alors j'aime toujours, je trouve les interprétations d'Antoine Reynatz. Donc je trouve que là il a le un rôle assez intéressant et j'ai bien aimé son interprétation. Cela dit, j'ai l'impression qu'il m'a manqué quelque chose pour ressentir l'angoisse ou la terreur qui allait s'abattre.
Je partage un peu.
Même si, en fait, on sait ce qui va se passer puisque tout le monde connaît l'histoire de l'assassinat de Samuel Paty. Donc on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va terminer. Et je trouve que justement le film est un peu timide pour recréer cette angoisse et cette pression de ce qui va se produire.
Ouais, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur les autres personnages. C'est un peu moins centré sur Samuel Paty.
Moi, je l'ai ressenti comme ça.
C'est peut-être pour ça qu'on on est plus en recul, en fait, par rapport à... Je sais pas, on le voit pas beaucoup chez lui, à la maison. Ouais. Enfin, on le voit un peu quand même, la nuit, etc. Mais je pense que si on voulait cette terreur-là... Il a pu ressentir, on n'est pas assez avec lui.
Je partage totalement ça et c'était exactement la réflexion que je me suis faite. Enfin, je me suis fait plusieurs réflexions sur ce film, mais c'était une des réflexions que j'aurais aimé le voir plus lui.
Oui.
Il n'est pas personnage principal de son propre histoire, j'ai envie de dire. Et du coup, pour un film hommage, et c'est nécessaire d'avoir un hommage sur une personne comme ça et un incident terrible comme ça, c'est dommage de pas avoir, de pas l'avoir mis vraiment au centre de son film, quoi.
Oui, on passe beaucoup de temps sur les vidéos, ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, etc. Bon, à un moment donné, on a compris, mais on continue à parler de ça, etc. Alors qu'on pourrait, on aurait pu aller plus genre chez lui, voir un peu en dehors du collège aussi ce qui se passe, quoi.
Et toi, Cam, du coup, t'en as pensé quoi de manière générale?
Alors, de manière générale, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai travaillé dans un collège, donc je sais. Enfin, il y a des choses qui ont résonné un peu en moi, notamment le relationnel avec les élèves, etc. Et le personnage de Bachira qui a été, qui est un très bon personnage, mais qu'on peut pas trop l'aimer en fait, ce personnage.
Ouais.
Même si c'est une vraie personne, en fait, c'est terrible de dire ça, mais
c'est mon deuxième point négatif. On y reviendra.
Ouais. Non, si, j'ai bien aimé, j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. On sait où on va, en fait, on sait ce qui va se passer et on anticipe un petit peu.
Ok, je reviens sur ce que tu disais sur le personnage de Bachira. Le personnage de Bachira, pour, je ne sais pas si c'est du spoil parce que tout le monde le sait, c'est le personnage qui a un peu précipité toute cette histoire et enfin, d'un petit mensonge de collégienne, c'est devenu toute une montagne, etc. Et c'est un peu le truc que j'ai eu sur ce film qui m'a un peu dérangée. Alors, je ne remets absolument pas en question ce qu'a fait Samuel Paty, ses cours, etc. Je le soutiens à 3000%. Mais j'ai trouvé que le film était très Samuel Paty le gentil, la communauté musulmane méchante.
Oui.
Alors ça m'a dérangé.
C'est un peu ce que j'ai dit à Camille en sortant de la séance, c'est que il donne l'impression d'être islamophobe et etc. Ce film, et notamment parce qu'il y a énormément de familles de confession musulmane qui ont aussi apporté leur soutien à Samuel Paty parce que justement,
mais on les voit pas assez.
Et c'est ce que je disais à Camille. J'ai dit il y a deux scènes où on les voit soutenir Samuel Paty. Il y a une réunion parents-prof où il y a deux familles qui sont venues, alors que le sujet c'est justement qu'il y a alors ce mensonge de Bachira qui a envenimé toute une partie
qui a allumé le feu aux poudres,
c'est ça,
dans le monde entier,
et on a presque invisibilisé tout le soutien d'autres familles
et du coup je trouve que le film est très clivant et très partial en fait, et ça m'a un peu dérangé en fait.
C'est ça,
j'aurais aimé qu'on nous dise il s'est passé ça comme ça, presque effectivement au documentaire de c'est comme ça et voilà, tout le monde, enfin un peu tout le monde a ses torts, Bachira a été prise dans l'engrenage de son propre mensonge et elle s'est laissée emporter dedans sans rien plus pouvoir faire en fait, alors qu'elle, là, elle est diabolisée à mort,
c'est ça, et heureusement finalement que à la fin ce soit la jeune Alma qui fasse ce discours, etc. Parce qu'elle avait elle aussi émis des réserves et des critiques à l'encontre de son professeur Samuel Paty. Et là, on voit bien que, bah, ok, elle a subi ce cours-là. Ils en ont parlé.
Et ça
s'est réglé, etc. Donc heureusement qu'il y a ces petits morceaux-là qui viennent quand même nous dire non, le sujet n'est pas la confession musulmane face à la laïcité à l'école, etc. Machin là.
Mais j'ai trouvé que c'était pas
le sujet. C'est une élève qui se terre dans son mensonge parce que, alors sans doute qu'elle veut pas froisser ses parents, etc. Machin là. Et du coup, je pense que le propos est un peu.
Ouais. Moi, j'ai trouvé ça dommage, cette partialité de l'histoire. Et ben, c'est sorti le 13 mai, hein. Pour information, il a eu un très très bel accueil à Cannes. C'est un film qui est important. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait été présenté à Cannes. On le rappelle, il est toujours au cinéma. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, parce que quand même, ça parle de plein de choses très politiques et c'est quand même très intéressant à voir. Et enfin, parce que le Festival de Cannes, ce n'est pas juste un festival de films français, là on a parlé de deux films français, on va parler aussi d'un film international, et quoi de mieux que de parler d'un des plus grands réalisateurs espagnols, Pedro Almodovar.
Almodovar.
Le 20 mai est sorti son nouveau film Autofiction, qui lui aussi a été présenté en compétition cette année à Cannes. Kevin, tu peux nous le présenter un petit peu, s'il te plaît ?
Donc tu l'as dit, effectivement, c'est le dernier Pedro Almodovar, qui est actuellement en salle, et là on a... de nouveau, comme dans l'histoire parallèle tout à l'heure, un peu une histoire dans l'histoire, dans l'histoire. Enfin, là, c'est, là, on est vraiment.
C'est vrai. Donc, il y a trois niveaux. C'est ça.
Donc, on est face à un réalisateur scénariste très reconnu, qui veut écrire un nouveau scénario, qui va s'inspirer un petit peu de sa vie et de celle de ses proches pour alimenter son scénario. Et en fait, c'est l'histoire. Son scénario, c'est l'histoire d'une scénariste qui s'inspire de ses proches pour réaliser un film en se basant sur.
Mais on est dans Inception,
en fait. Mise en abîme.
C'est ça. Enfin là, c'est là, on est au plus profond des abîmes, donc c'est super. Pedro Almodovar, du coup, comme pour Histoire parallèle, on ne sait pas trop où ça va, en fait.
Exactement.
Je vais commencer tout de suite par là. Je vais.
Voilà, vas-y, poser dans le dur.
On ne sait pas trop où ça va. C'est un petit peu lent aussi, etc. C'est beau parce que c'est Pedro Almodovar,
c'est
donc il y a une esthétique qui est vraiment soignée. Il y a des cadres qui sont incroyables. Il y a des plans vraiment très très chouettes.
Sur la couleur,
tout à fait.
Le travail sur la couleur qui est toujours impeccable avec Almodovar.
Qu'on retrouvait d'ailleurs dans le précédent film de.
C'est ça, la chambre d'à côté.
Qui peut faire parfois référence à ce film-là d'ailleurs.
J'ai l'impression qu'il a bien filmé dans des très belles villas.
Ouais. Et il aime bien le rouge et plaisir.
Le rouge et le jaune.
Le rouge et le jaune, c'est ça. Ouais. Qu'on voyait très bien dans la chambre d'à côté et qu'on voit encore bien là. Donc vraiment, les couleurs sont vraiment très vives, etc. C'est très beau. Le casting est chouette aussi. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très crédible. C'était vraiment, vraiment chouette. On l'a vu en VOST avec Camille.
Voilà, moi j'ai fait l'erreur d'aller le voir en VF.
Et ben, je pense que, et c'est pour ça qu'on n'est pas venu avec toi, je pense. J'ai vu que c'était une séance en VF, je pense pas.
Je préfère se lever tôt pour aller voir un film en VO.
Bah, au bout de 2 minutes de film, j'ai regretté. Je vais pas vous mentir. C'est la VF, elle est claquée au sol.
Ouais. Et ben, en fait, ça m'étonne pas. Ouais. Parce que je crois que j'avais dû voir des trucs sur d'autres films, espagnol, et généralement je sais pas ce qui se passe avec l'AVF, mais ça va pas, c'est pas grave, hein, mais
moi je me suis auto saoulée à aller voir ce film en VF, alors que l'AVF, elle est vraiment
t'étais dans le thème,
ça fait très
auto,
c'est ça, exactement. La VF, elle rend le truc hyper caricatural, hyper hyper cheap, en fait, presque.
Ils ont mis des novelas.
Non, ils ont pas mis d'accent.
Okay.
Non, mais tu vois, Rossi de Palma, qui fait quand même une apparition dans le film, elle parle français, c'est pas elle qui se double.
Oui, donc
c'est
ça
dommage.
Pas...
C'est dommage.
Mais ça c'est terrible. Parce que oui, elle parle français. Alors, oui, elle a un accent espagnol quand elle parle français,
Elle est espagnole.
Mais en fait,
donc,
elle est connue, donc c'est pas très grave.
Donc, j'ai trouvé ça. Et du coup, ça rend le film presque un peu telenovela.
C'est dommage parce que.
Je m'en suis voulu à mort.
Parce qu'il a des qualités, le film. Même si, effectivement, il est un petit peu long aussi, mais je pense que. C'est Inception, là, c'est mises en abîme qui rallongent les choses un petit peu trop, mais c'est dommage, la VF, je pense.
Ouais, je suis d'accord. Camille, il nous reste 2 minutes, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en as pensé ?
Je sais pas trop. Je l'ai trouvé très long.
Ouais.
Je savais pas où on allait, mais en fait, je savais où on allait, mais en fait, je savais pas vraiment où on allait.
En fait, c'est que c'est pas particulièrement long, le film est pas très.
Non, il est pas très long,
c'est
mais
c'est très plat, monotone.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de rythme. Alors, c'est beau. C'est, en fait, il y a l'esthétique qui remonte un peu la note, on va dire. Mais Puis c'est le deuxième film que je vois en deux jours qui est sur des histoires parallèles, etc. Donc peut-être que je peux aussi un peu comparer. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ?
Il y a des beaux abdos, par contre.
Ah ouais, non mais il est, c'est caricatural.
Ah oui, bah oui.
Bon bref. Et puis je reste un peu sur ma fin aussi.
Ok.
Parce que je trouve qu'il manque plein de trucs.
Ouais, je peux. Après,
les fins ouvertes, c'est souvent comme ça. Il manque, manque des choses.
Ouais, ouais.
Mais ouais, c'est pas un grand film pour moi.
Ok,
ça me correspond pas trop.
Ouais, mais c'est possible. Moi, j'ai trouvé que le scénario avait parfois des points d'intérêt, mais qui étaient genre de 5 minutes et qui étaient très trop tardifs dans le scénario.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais,
et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage quand même. C'est dommage.
Exactement.
Et ben voilà, Pedro Almodovar. Pour info aussi, il a eu un accueil très très clivant à Cannes.
Ouais, bah
ça
n'a
pas été dithyrambique, donc,
pas.
Je pense qu'on est assez raccord. Donc Autofiction, le nouveau film de Pedro Almodovar, il n'est pas non plus sur le palmarès de ce festival de Cannes. Vu l'accueil clivant qu'il a eu, ce n'est pas étonnant. Si vous voulez vous faire votre propre avis, parce que c'est toujours un film de Pablo Almodovar, c'est toujours sympa.
Oui, il y en a qui peuvent adorer.
Oui, oui.
Et allez le voir en VO par contre. Vraiment, si vous allez le voir,
oui,
si vous pouvez, on vous conseille la VO à 3000. Moi, vraiment, je regrette
c'est
de l'avoir vu.
C'est sympa l'espagnol en plus.
Ouais, ouais, oui, c'est cool, c'est cool. Pour terminer cette émission, on ne pouvait pas du coup parler du Festival de Cannes sans vous faire un petit récap du palmarès dont on vous parle depuis tout à l'heure. Certains films ne sont pas encore sortis en salle, mais du coup, ça veut dire que nous, on va surveiller leur date de sortie et qu'on en reparlera probablement ici. Je vais pas tout vous présenter parce que le palmarès est assez grand et que on pourrait passer la demi-heure à ça. Je vais vous inviter à aller voir sur le site du Festival de Cannes directement le palmarès ou sur il y a plein de trucs d'infos qui le relaient. Là, on va parler des plus importantes et de celles que j'ai envie de vous parler en fait tout simplement. C'est moi qui décide. Au Festival de Cannes, je vous l'ai dit, il existe une compétition long métrage, une compétition court métrage et une compétition qui s'appelle Un certain regard qui met en lumière les films plus audacieux, plus expérimentaux, plus originaux que la moyenne. Et cette année, le prix spécial du jury a été remis à un film que moi j'attends beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Le nouveau film d'animation de Louis Clichy, Le Corset, comme par hasard, tout à fait. On en a parlé un peu dans la dernière émission. J'attends beaucoup ce film parce que j'aime bien l'animation de Louis Clichy. Et pour ce nouveau film, Le Corset, l'histoire c'est un jeune garçon habitant dans une ferme qui penche. Ouais, le speech c'est ça. Et du coup, il est obligé de porter un corset. Ça sort le 14 octobre et je pense qu'on gardera, enfin moi je garderai en tout cas un œil dessus important. Côté compétition officielle des longs métrages, on va parler du prix d'interprétation masculine qui a été décerné à deux acteurs, Emmanuel Macchia et Valentin Campagne, pour le même film, le film Coward, j'espère que je le prononce bien.
Oui, c'est bien.
Et qui est le nouveau film de Lucas Dont, exactement, Kevin.
Dont on vous parlait la dernière fois.
Exact. Après Klaus, qu'on avait adoré ici, j'ai pas trouvé malheureusement de date de sortie pour Coward, mais on vous tiendra au courant, je pense qu'on en reparlera. Kevin nous poussera à en reparler. Toujours en long métrage, le prix d'interprétation féminine a lui été partagé entre deux actrices, Virginie Efira, dont on a parlé tout à l'heure, mais pas du tout pour Histoire parallèle. Elle est avec sa co-actrice, enfin sa coéquipière dans le film, Tao Okamoto. Et c'est pour le film Soudain, qui a été réalisé par, attention, mon super accent, Ryusuke Hamaguchi. Est-ce qu'on est bon au niveau de la prononciation?
Presque.
Ok, vas-y, tu le sais? Comment on dit?
Bah, Ryusuke.
Ryusuke. Ryusuke Hamaguchi. Je suis absolument désolée pour cette personne, je m'en excuse. Et donc ce film raconte l'histoire de deux femmes qui travaillent auprès des personnes âgées et qui s'allient et qui se battent ensemble pour la dignité et le bon traitement de ces justement personnes âgées en fin de vie. Le film sort le 12 août de cette année, donc pareil, nous garderons un œil là-dessus. Le prix du scénario a quant à